Alors malheureusement, je ne peux rien vous raconter, étant donné que j'avais 3 ans lorsque j'ai quitté la Hongrie. Nous sommes venus en France. Alors jusqu'à 3 ans, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'étais une petite fille gâtée, enfin gâtée parce que j'étais la plus jeune, mais je ne peux vraiment strictement rien vous raconter sur la vie. Je sais que maman avait un magasin de broderie et que j'étais sur le pas de la porte et que je recevais des cadeaux de presque tous les clients qui venaient chez ma mère. Alors, ça, je me souviens, mais un point, c'est tout. Et à 3 ans, nous avons quitté la Hongrie. Maman voulait que nous fassions des études un petit peu plus élaborées. Et mon père voulait avoir un poste de rabbin. Or, en Hongrie, ce n'est pas tellement les rabbins qui manquaient. Et puis, on voulait aller dans une ville un petit peu plus, dans une ville plus grande. Et on a choisi la France parce que la France, on disait que c'était un pays d'accueil. Et mon père s'est dirigé carrément par ici, vers Paris. Et c'est là que nous sommes venus après papa, après que mon papa soit venu là. Alors, les premières années de notre installation à Paris, on a une vague cousine qui nous a trouvé un appartement dans le 18e, à la porte de Clignancourt, un appartement très, très petit. Enfin, c'était toujours pour débuter. Et moi, j'ai joué dans la rue avec les enfants, et c'est là que j'ai appris le français. Mais nous n'avons pas tardé à déménager parce que c'était trop petit et c'était pas très très joli. Et ensuite, nous sommes allés boulevard Barbès. Nous avons habité au 25, boulevard Barbès, et au-dessus de nous habitait Fernandel. Et comme il chantait tous les jours jusqu'à 2-3 heures du matin, et qu'il n'aimait pas tellement les Juifs, je vous le dis tout de suite. Nous avons déménagé, nous sommes restés, je crois, 2 ans, enfin à peu près, et nous sommes arrivés rue des Martyrs. Nous avons habité en haut de la rue des Martyrs, au 31, si je me souviens bien. Et là, j'ai justement simplement un souvenir que mon père me racontait tout le temps. L'autobus qui montait rue des Martyrs, à chaque fois le conducteur qui tirait toujours cette chaîne, il y avait une chaîne à tirer, c'était pas comme aujourd'hui, à chaque fois il disait rue des Martyrs. Rue des hommes mariés. Ça, c'était son slogan. Bon, nous sommes restés quelques années là-bas, plusieurs années même, mais comme la rue montait et que c'était très difficile pour ma mère de faire le marché, après plusieurs années, nous avons atterri rue Saint-Lazare. Et c'est de là que nous sommes partis. Il y a eu la guerre qui s'est déclarée, et c'est là que nous sommes partis. Bon, nous sommes arrivés en France, j'avais donc 4 ans, 3-4 ans. Et je suis allée à l'école, à 5 ans, je suis allée à l'école Tsadokan. C'est une école juive qui se trouvait avenue de Ségur. Il y avait à peu près 1 heure de métro à faire, l'aller, à peu près, hein, et retour. Et pendant plusieurs années, j'ai été dans cette école. Et j'ai passé d'ailleurs mon brevet dans cette école. Et ensuite, je suis allée dans une école commerciale. Étant donné que je ne devais plus prendre le métro pendant une année ou deux, parce que j'étais trop maigre et que le métro était très fatigant, le docteur a dit, il vaut mieux que j'aille à l'école à côté. Alors, à côté de chez nous, c'était rue Milton, une école laïque, enfin une école normale, communale. Alors là, j'avais des problèmes avec le samedi, parce que samedi, je n'allais pas aller à l'école. La directrice m'a dit, à condition que je fasse mes devoirs et que je demande les devoirs et les leçons, ça pourra aller. Et effectivement, j'avais une amie, une catholique très pratiquante, avec qui j'étais très 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 bien, une très bonne amie, et qui m'a toujours passé les devoirs. Or, une fois, il y avait un examen et la directrice m'a dit, écoutez, il faudrait que vous assistiez à cet examen. J'ai dit, écoutez, moi je peux assister, mais je ne pourrais pas écrire, parce que écrire nous est défendu le samedi. Alors elle a dit, bon, et je suis venue. Et naturellement, la maîtresse ne comprenant pas, et moi je la comprends très très bien qu'elle n'a pas compris, elle m'a dit, quoi, tu ne peux pas prendre un crayon et écrire un petit mot? Et moi j'étais terriblement gênée, j'avais 7-8 ans, j'étais très vexée, je me suis gênée devant tous les élèves. Et bon, je n'ai pas écrit. Et je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré, j'ai raconté ça à mes parents. Et alors mon frère là-dessus est allé voir la directrice et a sermonné la directrice, pourquoi est-ce qu'on m'a blâmé comme ça dans l'école? Et moi, j'étais très fâchée parce que là, j'avais la maîtresse sur le dos, en plus. Mais enfin, ça s'est bien passé, ça s'est calmé. Et j'ai continué à aller à l'école pendant un an, je crois, ou 2 ans. Et je suis retournée après, avec l'esprit beaucoup plus léger, à l'école de Tzadokan. Mes parents, mon père, a fait des études de rabbin. Et on est très, très pieux. On est resté pieux tout le temps. Et mon papa était professeur de Talmud Torah, de choses religieuses, dans la synagogue de la rue Cadet au début. Et même, il avait une très belle voix, il était un peu chantre aussi, de temps en temps, tout en ayant fait des études rabbiniques. Mais il y avait un rabbin déjà dans cette synagogue. Et ma jeunesse s'est passée dans la rue Cadet, dans cette synagogue-là. Et maman était brodeuse, et donc elle travaillait un petit peu de broderie et des tapis qu'elle faisait. Et mes sœurs, ma sœur était à l'école avec moi, ma sœur qui a 5 ans de plus que moi, et ma grande sœur, avec mon frère, ont ouvert une fabrique de chapeaux de dame. J'ai ma sœur aînée qui était très douée, qui était modéliste, et ils ont ouvert une fabrique de chapeaux de dame. Alors, nos relations avec les autres juifs, nous avons eu que des amis qui étaient religieux comme nous, parce que la Rue Cadet est une synagogue très religieuse, typiquement française, très religieuse. Mais par contre, le fabrique de chapeaux que nous avions, là je sais qu'ils avaient des problèmes, parce que comme ils ne pouvaient pas livrer le samedi, et qu'il fallait absolument que ça soit livré que le samedi, ils avaient beaucoup de problèmes de ce côté-là. Mais enfin, ils s'en sont sortis, ils ont travaillé la nuit, le jour, pour pouvoir pallier à ce défaut. Moi, personnellement, je n'avais absolument plus de problème du tout. On avait des problèmes pour manger kasher, c'était assez difficile. Kasher, c'est-à-dire rituel, parce que mon père ne voulait pas manger. Il y avait des boucheries kasher, mais pour lui, ce n'était pas assez kasher. Alors, on a été chercher des poulets vivants au hall avec ma mère. On a été chez le sacrificateur qui s'appelle un charrette et on les a fait couper. Et c'est ma mère qui déplumait, la pauvre, je la vois encore, en train de déplumer 5-6 poulets, les vider et faire cacher et tout. Et ma mère s'est usée au travail comme ça. Et bon, mais enfin, on était très heureux, on n'avait pas de problème spécial. Lorsque nous sommes arrivés en France en 1927, la même année, nous nous sommes fait naturaliser français. 30, 31, 32, quelque chose comme ça. Nous avons entendu effectivement des bruits venant de Pologne. Mon père écoutait la radio anglaise, là. Et on a entendu tout ce qui se passait et on a commencé à prendre très peur. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Mais mon père était un optimiste fervent. Il a dit que jamais, jamais les Allemands ne viendront en France, ça n'existe pas. Il a dit ça jusqu'à la veille de la déclaration de la guerre. Et je me souviens très bien que dans la rue Saint-Lazare, où nous avons atterri après plusieurs années, où nous avons habité peut-être 2 ans, puisque la guerre était déclarée en 1939, je me souviens qu'en écoutant Radio Londres, et Radio Londres racontait qu'il y avait des déportations en Pologne de femmes juives, et qu'on les faisait travailler les routes en plein hiver avec des robes d'été, et qu'il y avait des fours crématoires, enfin qu'on les exterminait. Et mon père a dit, ça c'est de la propagande anglaise, je suis sûr que c'est pas vrai. Et par la suite, lorsque j'ai été déportée, je me suis trouvée dans cette situation exactement, j'ai pensé à mon père. Je me suis dit que vraiment, il était vraiment très très optimiste, hein, beaucoup trop. J'ai entendu parler du Front Populaire, mais je vous avoue franchement que je ne m'occupe pas beaucoup de politique, et encore aujourd'hui, je n'aime pas du tout la politique. Mais j'ai entendu mon père raconter, enfin, entre eux, que vraiment ça devenait menaçant et qu'on ne savait pas quoi faire, mais qu'il fallait attendre. On verra bien, que peut-être Dieu va aider, on ne sait pas. Et alors on a attendu. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On a attendu. Et en 1939, la guerre s'est déclarée. Je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Et je me souviens, on m'a dit, Edith, va chercher le journal chez le marchand de journaux. Et ça m'a frappé parce que dans le temps, les journaux n'avaient pas de caractère gras comme aujourd'hui. Et il y avait des grosses lettres de cette grandeur-là, la guerre est déclarée. Je suis montée et mon père a dit, ça, j'aurais jamais cru. C'était la guerre, c'était déclaré. On n'a rien fait, on ne pouvait rien faire, on a écouté Radio Londres et on attendait les suites. Dans les suites jusqu'à 1941, où on a dû, je crois 40 ou 41, je ne veux pas m'avancer, où on a dû mettre le tampon juif sur les cartes d'identité, nous sommes restés rue Saint-Lazare. Et c'est à partir de ce moment-là que mon père a pris peur et il a dit, maintenant, il faut partir, on ne va plus rester là, c'est fini. Le tampon sur la carte d'identité, ça nous a fait très très peur. Tout simplement, ça nous a fait très peur. Ça nous a mis la puce à l'oreille et on avait déjà peur que le lendemain, Hitler était déjà en France, à Paris, surtout. Et là, bon, on a tout laissé et nous avons décidé de partir. J'ai ma sœur aînée qui avait son mari qui avait une voiture. Alors, les voitures dans le temps, c'était un objet de grand luxe. Qui sait qu'il y en avait, mais lui, il travaillait avec cette voiture. Ils étaient des jeunes mariés, ils étaient à peine mariés quelques mois, et ils nous ont proposé de nous prendre et de partir à l'aventure sur les routes pour quitter cette zone occupée. Normalement, la France était divisée en deux, il y avait soi-disant une zone libre et une zone occupée, et on a essayé de franchir cette zone libre. Et nous sommes partis dans cette voiture, toute la famille entassée, en laissant tout dans l'appartement et en prenant le peu d'argent que nous avions.
Et alors ?
Eh bien, sur les routes, c'était comme des nomades. Sur les routes, vous aviez des gens à cheval, vous avez des gens en bicyclette, des gens à pied. On roulait vraiment à petits pas et on roulait comme ça pendant très longtemps. Il n'y avait pas d'appartement où loger parce que tout le monde partait. Beaucoup de gens partaient, pas seulement des Juifs. Il y avait énormément de gens sur les routes. C'était vraiment l'exode, tout simplement une grande exode. Nous avons, je crois, d'après mes souvenirs, nous avons atterri au Puy, le Puy, la ville du Puy, où nous avons habité chez un fermier dans des conditions déplorables. Des chambres humides. Mais encore très content de pouvoir poser sa tête quelque part. De là, nous sommes partis à Clermont-Ferrand. De là, nous sommes partis à Saint-Étienne, et toujours très difficilement. Et de là, nous sommes partis à Vichy. Et à Vichy, on s'est installé. Alors là, on a pu rester quelques années. On a fait une communauté juive, il y avait une boucherie cachère, il y avait un restaurant cachère, il y avait des études. On a pensé que nous sommes un petit peu dans la zone libre et nous avons été débarrassés de ces Allemands. Et après quelques années, la Kommandantur s'est installée à Vichy et là, nous sommes partis de là-bas. Nous avons dû reprendre la route, les baluchons, comme on dit, et nous sommes arrivés à Lyon en 1944. Pour une famille juive, dans ces années de troubles, nous étions coincés, nous n'avons pas pu travailler, ni mon frère entre-temps, je dois vous dire, mon frère entre-temps s'est marié. Étant donné que ça commençait à traîner, il a trouvé une femme et s'est marié, il habitait Marseille. Ma sœur, ma deuxième sœur, elle s'est mariée aussi. Et elle est partie en Suisse, en fraude. C'était aussi un camp en Suisse, mais ce n'était pas un camp comme à Auschwitz. Et bon, alors elle est partie en Suisse, et mon père de toute façon a été caché. Mon père a été caché à Lyon, à Caluire, dans un appartement, avec ma sœur aînée, mariée, qui nous avait amenés, et mon beau-frère, et maman. Mon père ne voulait pas couper sa barbe. Il avait une petite barbe, comme vous voyez sur la photo, mais il ne voulait pas la couper. donc qu'il ne sortait pas dans la rue. Mon beau-frère, n'ayant pas l'air très très non-juif, n'est pas sorti non plus. Et maman, qui parlait très mal le français, n'est pas sortie non plus. Et que c'est ma sœur qui faisait les courses. Moi, entre-temps, je me suis aussi mariée à Lyon, en 1944, et j'habitais avec mon mari. J'habitais avec mon mari dans un appartement dont personne ne savait l'adresse, qui était caché. Mais nous n'avons pas pu, pendant toutes ces années où nous avons, si on peut dire, bourlingué, nous n'avons absolument pas pu travailler, il fallait vivre sur nos réserves. J'étais petite, enfin je ne m'occupais pas tellement de choses pécuniaires, mais on avait une petite réserve et petit à petit la réserve s'est évanouie. Moi j'ai commencé à travailler lorsque j'étais à Vichy, je retourne à Vichy, j'ai commencé à travailler dans une usine de juifs qui a été perquisitionnée par les Allemands et qu'il fallait coudre des boutons pour les militaires. On recevait 2 centimes par bouton, 2 centimes d'époque. Alors voilà, c'était ce que je pouvais rapporter à la maison, c'était pas grand chose. Ça, c'était à Vichy. Et puis à Lyon, alors nous nous sommes mariés, mes parents étaient cachés, et moi j'avais un beau-frère. Mon nom à ce moment-là s'appelle Wiesel, c'est un cousin d'Elie Wiesel. J'avais un beau-frère, donc le frère de mon mari, qui était très très bien. Avec les commissaires de Lyon. Et il nous a fait faire des faux papiers. Et moi, je m'appelais... Bon, je vous le dirai le nom tout à l'heure, ça va me revenir. Et donc, un nom tout à fait français. Et mon beau-frère, qui pensait que ces commissaires étaient des amis, il avait une quinzaine de personnes à qui il a fait faire des papiers. Et puis... il avait la manie de marquer sur son carnet les adresses de ces gens pour se rappeler. Et la milice française, qui était des policiers français, qui recevait 5000 francs par tête de juifs qu'il dénonçait, et de résistants d'ailleurs, a trouvé là un filon et a dénoncé mon beau-frère. Donc il a été chez mon beau-frère, qui, avec le carnet, a trouvé les 15 noms, donc nous aussi, les adresses. Alors donc, je me suis mariée avant les fêtes de Pâques, 3 mois avant. Nous étions donc cachés sous le nom de Saunier, à Lyon-Brotteau, si je me souviens. Et c'est là que nous avons été dénoncés par les miliciens et qui sont venus chercher justement mon mari, 3 mois après que je me sois mariée, que nous nous sommes mariés. Un jour, nous avons 4 policiers qui sont rentrés dans l'appartement. Enfin, ils ont sonné, on a ouvert la porte, on ne se rendait même pas compte. Et ils ont dit à mon mari, nous voulons faire simplement une vérification de papier au commissariat, venez avec nous. Et mon mari, qui était beaucoup plus au courant que moi j'étais presque aussi naïve que mon père, m'a dit, non, je ne veux pas aller. Ils ont dit, non, c'est juste une vérification. Et mon mari... ne voulait pas aller, ils l'ont pris de force. Et il s'est débattu. C'était 4 malabars qui sont arrivés. Et il m'a dit, Edith, ne me laisse pas partir. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre 4 malabars qui l'ont traîné de force? Et je l'ai entendu ses cris jusqu'en bas de la porte. Il n'a pas voulu partir, on l'a traîné de force. Lui, je crois qu'il se rendait compte, il savait qu'est-ce qu'il attendait. Et effectivement, je ne l'ai plus revu. Lorsque j'ai vu qu'on l'a emmené, moi j'étais en train de faire le ménage de Pâques, justement, j'étais en chemise de nuit encore, avec un peignoir. Lorsque je l'ai vu qu'il est parti, je me suis tout de suite dit, certainement on va aller chercher mon beau-frère également, je vais aller le prévenir. J'ai donc pris dans le placard, je me suis habillée, sommairement, j'ai pris une jupe, un corsage, par-dessus tout ce que j'avais, et j'avais une veste blanche en lapin blanc, qui a son histoire, c'est pour ça que j'insiste. Et cette veste lapin blanc m'a été offerte en cadeau par mon frère, qui lui, étant marié, avait besoin de gagner sa vie, a fait des chaussons en daim fourrés de lapin blanc pour envoyer sur le front pour les soldats français. Et lorsque je me suis mariée, il m'a fait faire une veste de lapin blanc, qui était un grand luxe à l'époque, Et j'ai donc pris cette veste, automatiquement, et j'ai pris un sac qui était suspendu dans le placard, mon grand sac, j'ai mis dedans le peu d'argent que j'avais, et un petit peu de bijoux, je n'avais pas grand-chose, et puis je suis parti prévenir mon beau-frère. Arrivé devant la porte de mon beau-frère, j'aperçois sur le trottoir un deuxième beau-frère qui habitait Strasbourg et qui venait simplement en visite voir son frère. Il me dit, ne monte pas, parce que je viens de l'appartement, on a tout fouillé, sans dessus, sans dessous, on a certainement pris, mon beau-frère s'appelait Nindor, c'est un nom hongrois, on a certainement pris Nindor et on est venu le chercher. Je dis à mon beau-frère qui s'appelle Erneux, je lui dis, écoute, justement, je venais le prévenir parce qu'on a pris mon mari aussi. Ah, il dit, bon, bah, alors si on a pris tous les deux, on peut monter voir qu'est-ce qui se passe. Et nous sommes montés dans l'appartement, premier étage, et à peine arrivé à la porte, on n'est même pas encore rentré, que la milice est revenue. Et alors là, mon beau-frère, celui-ci, Erneux, sentant ces policiers, a commencé à courir et monter 4 à 4 l'escalier pour se sauver. Moi, j'ai essayé de les suivre. Moi, je suis arrivé à monter que par deux, et je suis arrivé jusqu'au deuxième étage, j'étais essoufflé, et je savais que j'arriverais pas. Et ils ont commencé à tirer, de toute façon, mais mon beau-frère a réussi à sortir par les toits jusqu'au sixième étage, et moi, au deuxième étage, j'ai sonné à la porte, mais naturellement, personne n'a ouvert, je le comprends très bien, et ils m'ont cueilli au deuxième étage. Ils m'ont redescendu, et m'ont ramené au premier étage dans l'appartement de mon beau-frère. Et c'est là que j'ai dû attendre un petit peu. Et j'ai demandé, écoutez, laissez-moi partir, laissez-moi... Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Non, 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 on ne peut pas vous laisser partir. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai dit, peut-être que vous me laissez aller à la toilette. Oui, oui, mais on reste devant la porte. Et après quelques temps, le chef est arrivé. Ils m'ont dit, amène-la devant la Gestapo. Et ils m'ont amené devant Barbie. Bon, lorsque le milicien m'a amené à la Gestapo, j'étais devant Barbie. Je ne savais pas du tout qui était Barbie. Je sais que c'était la Gestapo, mais je ne savais pas qui était Barbie. Je dois vous dire, j'étais à tel point abasourdi par tout ce qui m'est arrivé que je ne réalisais absolument pas ce qui m'arrivait. Mais absolument pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris n'importe quelle chose que j'ai trouvée dans mon placard. Parce que si j'avais réalisé ce qui m'arrivait, j'aurais peut-être fait attention. Donc j'arrive devant Barbie, et là le milicien est parti. Il y avait un Allemand, un officier allemand, qui était à côté de moi. J'étais assis en face du bureau de Barbie, et il me demande mon sac à main. Alors il me regarde, et donc le papier est saugné. Il dit à cet Allemand, qu'est-ce que vous m'avez amené une femme ici ? C'est pas une femme juive, ni elle a l'air juive, ni le nom, elle n'est pas juive. Pourquoi vous me l'avez amené ? L'officier dit, moi je ne sais rien du tout, je ne suis pas au courant. On me l'a remise et je voulais amener. Et lui, il regarde mon sac, et il fouille dans mon sac. Malheureusement, mon sac avait une doublure, et sous cette doublure, j'avais caché mes vrais papiers. Mes papiers de Wiesel. Or, Wiesel, ce n'est pas un nom du tout, un nom non juif, ce n'est pas un nom goy. Et quand il a vu le vrai carte d'identité, alors ça n'a pas fait un pli. Il avait un sourire médusé. Heureusement, il ne m'a pas touché. Ça, je l'ai su par la suite, en sachant qui c'était. Je l'ai échappé belle. Il m'a remis tout le sac. Il m'a rendu le sac et il a dit à l'Allemand, amenez-la. Et c'est là que l'Allemand m'a amené. Et en sortant sur la route, je lui ai dit, dis-moi, je parlais l'allemand, laisse-moi partir, qu'est-ce que ça peut te faire d'avoir une femme en plus, comme moi, insignifiante, j'ai pas fait de résistance, j'ai rien fait. Il n'a pas répondu. Alors j'ai insisté, je dis, écoute, j'avais un petit solitaire que mon mari m'avait offert lorsque je me suis mariée, et je l'avais sur le doigt, et je lui ai dit, écoute, je te donne ma bague, et je te donne tout l'argent que j'ai, mais laisse-moi partir. Alors là, il m'a regardé d'un air de pitié et il me dit, écoute, je ne veux pas te laisser partir parce que si moi je te laisse partir, on m'envoie sur le front. Et moi, je ne veux pas aller sur le front. Et c'était fini, je ne pouvais plus avoir aucune conversation avec lui. Et il m'a amené devant la prison de Montluc. Et là, il est parti, il m'a remis au directeur de la prison et qui m'a gentiment amené dans une cellule. Et la porte de la liberté s'est refermée sur moi. À la prison de Montluc où on m'a amené, effectivement, c'est la première fois que j'ai été dans une prison. Je n'ai jamais su qu'est-ce que c'est qu'une prison. On m'a mis dans une petite pièce, heureusement que j'étais seul, où il y avait simplement une latrine et une paillasse. Et c'est là que je rongeais mon frein. Ils avaient une lumière très intense pour qu'ils puissent surveiller. Et je tournais en rond et j'étais toujours pas en mesure de savoir qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais vraiment complètement assommé. Il faut vous dire que j'avais 20 ans à l'époque et que j'étais juste marié depuis 3 mois et que tout ça, ça m'a tellement touché que je ne réalisais pas du tout. Peut-être est-ce mieux parce que j'aurais été à tel point désespéré que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et là-bas, en tournant en rond, j'ai eu le temps un petit peu de réfléchir. Malheureusement, la nuit, on entendait des hurlements, vraiment des hurlements de résistants qu'on amenait pour les interroger. Et par la toute petite fente de lucarne qu'il y avait, je ne sais pas comment vous appelez ça, j'ai pu regarder un petit peu et quand ils sont revenus, on les a traînés, ils étaient vraiment tuméfiés, ils étaient dans un état déplorable. C'est effrayant d'entendre ces hurlements et ces cris. Et puis, on n'avait naturellement pas à manger, on avait du pain sec, une soupe à laquelle je n'ai pas touché. Tout ce que j'ai fait, c'est de pouvoir regarder par une toute petite fenêtre qu'il y avait au fond et par laquelle j'ai entrevu, par hasard, dans l'autre côté de la face de la prison, j'ai entrevu la figure de mon mari. Et j'avais un rouge à lèvres, et j'avais du papier parce que j'avais mon sac à main. J'avais marqué sur ce rouge à lèvres « Je t'aime ». Et lui, il m'a répondu aussi sur ce papier. Mais en tout et pour tout, la fente était à peu près comme ça. Et c'est comme ça que j'ai su que mon mari était là-bas. Je suis resté péniblement là-bas. Je suis resté 8 jours dans cette prison. Et après 8 jours, c'était effrayant, effrayant. Et après 8 jours, on nous a sortis et on nous a mis dans un camion. Mais je crois que ce séjour en prison, je crois que je ne l'oublierai jamais. Ça a été, je pensais que ça a été le moment le plus dur de mon existence. Et je me suis bien trompée. Parce que par la suite, on me l'a bien fait oublier pour voir des choses beaucoup plus horribles. Donc je suis sortie de cette prison, 8 jours après, dans un camion. Le camion dans lequel j'ai trouvé, heureusement et malheureusement, ma belle-sœur, mon beau-frère, mon mari et tous les 15 personnes qui étaient dénoncées par ce milicien. Et on nous a amenés à Drancy. Et là, ma belle-sœur me racontait dans le camion que lorsqu'on a pris son mari, au même moment qu'on a pris le mien, nous ne le savions pas, elle est venue chez moi pour me prévenir. Moi, on a pris mon mari. Je suis allée la prévenir. Et les miliciens sont revenus nous cueillir toutes les deux après. Elle chez moi et moi chez elle. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le camion ensemble. Et on nous a amenés à Drancy. Alors à Drancy, c'était un camp de rassemblement pour les prisonniers qu'on devait déporter. Nous, heureusement, nous ne le savions pas du tout. La vie à Drancy n'était pas vraiment désastreuse. Moralement, oui, mais physiquement, pas tellement. C'est là que je pense que les Allemands voulaient donner le change. Ne pas montrer qu'est-ce qui nous attendait. Donc, nous pouvions faire laver notre linge, gratuitement. Nous avions à manger, plus ou moins, mais enfin, on pouvait manger à notre faim, gratuitement, repasser linge gratuitement, et toutes les familles étaient ensemble dans une chambre. Donc, ne nous étions pas séparés. Mais c'était quand même, nous étions incarcérés. Et on ne pouvait pas sortir, c'était absolument défendu. Et on vivait à huis clos dans ce camp. J'avais rencontré par hasard, un peu plus tard, une femme, bien plus tard, dans un train, qui m'a raconté justement qu'elle était à Drancy. C'était une jeune fille avec des cheveux longs, blonds. Et elle était à Drancy avec sa mère. Et un jour est venu un général très important. Et il est venu visiter ce camp. Et ils ont laissé la porte un petit peu entrouvert. Et cette jeune fille, qui avait l'air tout à fait arienne, a vu cette porte ouverte et a commencé à sortir gentiment de ce camp. Et quand elle a vu qu'on ne la regardait pas, elle s'est sauvée. Et elle avait la vie sauve. Malheureusement, sa mère, elle ne savait pas qu'elle pouvait sortir comme ça. Et malheureusement, sa mère a été déportée, elle n'est jamais revenue. Bon, alors dans ce camp, il y avait tout de même, tous les jours, une liste qui était affichée sur la porte de gens qu'on amenait. Et nous ne savions pas où. Alors on nous a raconté qu'on les amenait dans une usine à confiture, pour faire de la confiture. Et on voulait bien être naïf et croire. Et on se demandait comment on pouvait manger la confiture par la suite si on va aller dans cette usine. Mais il y avait un très bon ami à nous, qui lui était au courant, et qui m'a dit, vous vous trompez formellement, on nous amène au camp de la mort. Et nous avons dit, mais non, ne sois pas stupide, c'est ridicule, on n'a jamais entendu parler de ça. Elle dit, moi, je vous dis que oui. Et la veille de notre départ à nous, lui était déjà sur la liste. Elle a dit, je sais que je ne vous reverrai plus jamais. Et il a peut-être entendu des rumeurs que nous n'avions pas entendues ou que nous ne voulions pas entendre. Nous sommes restés, je pense, 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas exactement, il me semble. Et nous avons été sur la liste. Donc, pas seulement nous, les 15, mais beaucoup d'autres personnes. Mais à Drancy même, nous n'avions pas vraiment à nous plaindre. Nous étions dirigés par des Juifs. Mais on n'a pas été maltraités. On ne faisait rien de toute la journée. Et justement, 3 semaines après, nous étions sur la liste. Et on nous a amenés à la gare de l'Est, dans une gare désaffectée et dans des camions, dans des voitures, des wagons à bestiaux, pour nous amener vers la destination inconnue. Nous arrivons donc à la gare de l'Est, c'est une gare désaffectée, pas du tout à la centrale de la gare de l'Est. Et il y avait des wagons à bestiaux dans lesquels on transportait des chevaux et on entassait les gens à l'intérieur de ce wagon. Il y avait des soldats allemands, des SS, avec des chiens, des fusils. Et pour monter, ils nous poussaient dans ce wagon et on nous a entassés jusqu'à ce que le wagon soit archi-complet. Moi, j'avais de la chance avec mon mari et ma belle-sœur d'avoir... d'être adossé au mur. On avait des vieilles personnes qu'on a également adossées au mur. Mais tout le reste était au milieu et il fallait rester assis au milieu de ce wagon. C'était assez pénible. Et les gens étaient... Nous étions tous abasourdis. On ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait. On n'osait pas réfléchir et on n'osait pas se parler. Il y avait des gens qui ont essayé, des personnes qui ont essayé de scier les lames du sol, du parquet du wagon. C'était impossible, c'était beaucoup trop épais. Mais par contre, on a pu mettre des petits papiers dans les fentes en disant qu'on nous amenait dans un endroit inconnu, dans ces wagons. Et ça a été ramassé par les chefs de gare et je crois qu'il y en a pas mal qui ont été dirigés à destination. Mais de toute façon, les gens en dehors, quand ils voyaient que les personnes ont disparu, savaient exactement ce qui leur est arrivé. Parce qu'il y avait partout, tout le temps, des ramassages de juifs et de résistants, tout le temps. Donc, dans ce wagon, on a commencé un petit peu à s'organiser. Il y en a qui avaient amené des couvertures avec eux. Et ils ont mis une couverture en travers du wagon pour faire un semblant de, excusez-moi, de latrine, étant donné qu'on avait quand même un peu de pudeur qui nous restait. Et c'est comme ça qu'on a pu s'organiser. Mais il faisait une chaleur suffocante. Et on a démarré au bout d'un certain temps. Alors les portes étaient fermées. Il y avait des SS avec des chiens dehors. Ils étaient sur le marchepied. Il y en avait sur le toit du wagon. Et il y en avait à l'autre côté, à l'autre extrémité également. Donc pour se sauver, c'était impossible. Et il faisait une chaleur très très forte. Il y avait juste l'ouverture à la hauteur du museau, si on peut appeler du museau des chevaux, qui nous ramenait un petit peu d'air. C'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas beaucoup à manger parce qu'on n'a pas emmené avec nous. On ne nous a pas donné. Et moi, je vous avoue que j'étais complètement prostrée. Ma belle-sœur aussi et mon mari aussi. Et nous ne nous sommes pas adressés la parole pendant tous les 3 jours de voyage. On n'avait pas quoi se dire. On a réfléchi, on pleurait. Il y en a qui hurlaient. On les a fait taire parce que c'était angoissant. Et ces pauvres vieilles et ces vieux, à mi-chemin, sont morts de crise cardiaque. Donc on a traîné des cadavres avec nous. On a fait des haltes, mais on ne nous laissait pas descendre. Et tout ce qu'il a fait, c'est d'ouvrir la porte pour nous laisser un peu d'air. Et de mettre une barre de fer devant pour qu'on ne puisse pas sortir. Il y en a 2 ou 3 qui ont essayé de passer au travers, ils ont essayé de se sauver, mais ils ont été tirés à bout portant et ils sont morts sur le coup. Et c'est comme ça qu'on a continué notre voyage pendant 3 jours et 3 nuits, dans une angoisse épouvantable, en ne sachant vraiment pas ce qui nous arrivait. Mais sincèrement, je crois qu'on ne s'est pas adressé un mot avec la famille pendant tous ces 3 jours. Et je le regrette beaucoup, parce que je ne savais pas que je ne reverrais plus mon mari, ni mon beau-frère, ni tous ces gens. Mais sur le coup, on était vraiment abasourdis et malheureux comme tout. Ni manger, ni boire, affamés, l'angoisse au cœur. Enfin, c'était épouvantable. C'était terrible. Je ne peux même pas vous décrire la situation dans laquelle nous étions. C'était effroyable. Et maintenant, on se demandait si là, nous sommes dans cet état, où est-ce qu'il nous amène maintenant? Quel peut être notre enfer par la suite? On n'osait pas y penser. Donc, nous sommes dans ces wagons et 3 jours après, et 3 nuits que nous avons voyagé, nous sommes arrivés à destination et la porte s'est ouverte, le train s'est arrêté, la porte s'est ouverte et là, on entendait des hurlements et des cris. Raus, faire dehors, sale juif damné, tout ça en allemand, ça s'appelle faire Flucht der Juden. Et dépêchez-vous, et on tapait sur les wagons, et c'était 4 heures du matin, c'était encore l'hiver à Auschwitz, c'était donc à Birkenau, à Auschwitz, ça s'appelait Birkenau, il y avait une petite neige, une petite pluie très très humide, neigeux un peu, il y avait encore de la glace par terre, parce que c'était encore froid, c'est un peu quelques jours avant la Pâque juive, vers mois d'avril, début avril, là-bas il fait encore très très froid, et sont montés dans le wagon, avant que nous descendions, 2 prisonniers avec des vestes rayées, qui sont venus chercher ces cadavres, ces vieilles personnes, et on a essayé de leur demander où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, ils nous ont pas répondu, c'était défendu. Et ils ont descendu ces petites vieilles et ces petits vieux. Nous sommes descendus, on entendait un orchestre jouant des valses de Vienne. Alors c'était vraiment dans ces hurlements, entre les chiens, entre les SS, et des hurlements d'enfants, parce qu'il y avait déjà des hommes et des femmes qui étaient mis en rang. On entendait cet orchestre, c'était absolument aberrant, aberrant. C'était un orchestre de déportés, en costume rayé, qui jouait des valses de Vienne pour nous accueillir. dans ce paradis qui était Birkenau. Et alors, on nous a mis en rang. Et tout de suite, nos maris ont été emmenés très loin, sur l'autre côté du quai, aussi un quai, une gare désaffectée qui était spécialement pour ça, pour le débarquement des déportés. Et nous n'avons plus revu nos maris. Ils étaient très loin, on ne pouvait plus revoir. Et ma belle-sœur, qui avait 20 ans de plus que moi, j'en avais 20, elle avait 40 ans. Moi, j'étais encore fraîche parce que j'ai les joues colorées de nature et par la chaleur des wagons, j'avais l'air fraîche. Et elle avait l'air plutôt fanée et vraiment complètement claquée. Et elle me dit, écoute, on a entendu à haute voix les SS hurler. Ceux qui sont fatigués veulent rentrer en camion à droite. Ceux qui veulent rentrer à pied à gauche. Ma belle-sœur, qui ne voulait pas marcher, pensant que c'était très loin, a dit « Nous allons rentrer en camion. » Moi, je lui ai rétorqué « Écoute, je préfère rentrer à pied pour nous dégourdir les jambes après ces 3 jours. » C'était les premières paroles que nous nous sommes adressées. Et elle me dit « Non, écoute, ça ne te fait rien. » Je dis « Bon, on va rentrer en camion. » Et nous nous sommes mis en rang. Il y avait avec nous, dans ce wagon, une famille, une très très belle famille, le monsieur, la dame, la maman, le papa, avec 5 merveilleuses filles, s'échelonnant de, je crois, de 4 à 16-18 ans, dont les grandes avaient des cheveux jusqu'aux hanches, très bien, jusqu'à la moitié du dos. Et les grandes filles sont rentrées dans la ligne, dans le rang des marches à pied. Et la maman, avec ses 3 autres enfants, s'est mis dans le rang des camions devant nous. Et moi, j'ai toujours l'habitude de me mettre à l'extrémité d'un rang, je ne sais pas, je me dis peut-être on peut se sauver ou quoi, c'est tout le temps. Même au cinéma, on se met toujours au bout, au cas où. Et j'avais donc ma veste blanche, ce temps blafard, il faisait noir, il faisait froid dans nos cœurs, il faisait froid dehors dans notre corps, et c'était horrible. J'ai dû déteindre, certainement, avec ma veste blanche. Et de loin, je vois venir un SS avec les mains dans le dos. J'ai commencé à prendre peur et il se dirige directement vers moi. Nous étions donc dans le rang des camions, pour entrer en camion. Il vient à côté et il me dit, « Toi, tu passes dans le rang à pied. » Mais de loin, il est venu. J'ai dit, j'ai osé dire, je ne savais pas vraiment comment Dieu m'a inspiré. J'ai dit, je voudrais rester avec ma belle-sœur. Et elle me regarde, ma belle-sœur, et lui demande, quel âge as-tu? Et j'étais aussi inspirée par Dieu. Je vous dis franchement, je n'ai pas laissé répondre. J'ai dit, elle a 30 ans. Lui, interloqué, il la regarde, elle avait l'air tout sauf d'avoir 30 ans. Elle avait 40, mais elle avait l'air beaucoup plus parce qu'elle était vraiment vieillie par ce malheur. Il la regarde ironiquement et il dit, bon, elle va passer toutes les deux à pied. Alors je lui dis, tu vois, nous devions rentrer à pied. Et nous sommes rentrés à pied. Et tous ceux qui sont rentrés en camion sont rentrés au four crématoire, dans les chambres à gaz. Directement, c'était pas loin du tout, parce qu'Auschwitz, Birkenau, le camp, était à peine à 5 minutes de marche à pied, mais on ne le voyait pas, c'était camouflé. On leur a donné une serviette, une savonnette, et à la place de la douche, ils ont reçu des gaz. Et c'est comme ça qu'ils sont morts et on les a mis au four crématoire après. Ça, nous ne le savions pas. Donc nous étions dirigés donc vers le camp de Birkenau. Et là, on a dû passer d'abord... nous avons passé d'abord... je ne me souviens plus. Oui, d'abord nous avons passé... pour couper les cheveux. Alors, ils nous ont tondu. Ce sont des Juifs qui nous ont tondu les cheveux. C'était leur métier. Et ces jeunes filles qui avaient des cheveux tellement longs, lorsqu'on l'a tondue, elle était juste devant moi, est devenue hystérique. Il faisait très froid. Alors, vous savez, le crâne tondu, excusez-moi l'expression, à zéro, d'abord, c'était très inesthétique, et c'était très froid. Il a fallu vraiment... la calmer parce que c'était horrible. Elle était très jolie, mais elle a complètement changé de figure avec son crâne tondu. Et puis, nous étions un petit peu parmi les derniers. Et arrivé vers nous, nous avions des cheveux courts. Moi, j'étais mariée. Les femmes juives mariées se couvrent la tête. J'avais un turban que j'ai perdu en cours de route. Et alors, ma belle-sœur aussi. Et nous avons des cheveux courts. Soit qu'elle avait assez, qu'elle en avait vraiment marre de couper, soit qu'elle a vu que j'avais des cheveux courts, donc c'était pas tellement joli. Elle nous a dit, bon, vous pouvez passer. Et je vous dis, c'était vraiment l'aide de Dieu qui était là. Parce que le peu de cheveux, enfin, les cheveux courts, abondants, mais les cheveux en plein hiver, ça couvrait quand même bien la tête. Et c'était quand même moins inesthétique. Ensuite, nous sommes passés au tatouage. Nous avons donc été tatoués comme des chevaux, exactement. C'est une encre indélébile avec une plume, et que ça faisait très très mal, avec des numéros. Nous avions perdu toute notre personnalité. Les Juifs avaient un demi-triangle pour montrer que nous étions juifs, ce que certainement les résistants n'avaient pas. Nous avions encore de la chance là aussi, parce qu'il y en a qui ont été tatoués sur le front. Il y en a qui ont été tatoués sur la devant de la poitrine, avec des grosses lettres. Et nous avons été tatoués avec des petites lettres, si vous voulez que je vous montre, avec des petites lettres assez sommaires. Après le tatouage, ce qui faisait d'ailleurs très très mal, eh bien, nous avons eu quand même la chance d'avoir des petits chiffres. J'ai dit, nous nous sommes dit avec ma belle-sœur, vraiment, on nous a enlevé toute notre personnalité. Nous sommes des animaux. Plus que des bêtes, et ça c'est une encre tellement indélébile qu'on ne va jamais pouvoir oublier ça. Et surtout, on ne pourra jamais leur pardonner de nous avoir avilis à ce point-là. Mais il fallait continuer, et entre-temps, comme j'avais cette bague que cet Allemand n'en voulait pas, ce solitaire, je me suis dit, je ne veux pas leur donner, et je l'ai jeté dans un égout. Je ne voulais pas qu'ils en profitent. Et effectivement, on ne pouvait rien amener avec nous, parce que lorsque nous sommes descendus du train, on nous a hurlé, vous laissez toutes vos affaires, vous n'avez rien le droit d'amener, autrement on vous fusille tout de suite, et il ne faut rien amener. Moi, nous avons passé à la désinfection après ça. Désinfection, c'était une douche de produits détergents qu'on nous a arrosé avec, qui sentait très très mauvais, mais pour nous désinfecter, puisque nous étions des sales juifs. Et à ce moment-là, moi j'avais caché sous mon aisselle trois petites photos qui étaient la photo de ma sœur avec ma petite nièce et la photo de ma famille. C'est des petites photos, dans le temps c'était des petites photos d'amateurs. J'ai réussi à le cacher et avant de passer à la désinfection, je l'ai mis dans un petit coin et je me suis dit peut-être que je le retrouverai par la suite. Et j'ai effectivement eu la chance, après ma désinfection, avant de rentrer plus loin, de récupérer ces photos qui étaient pour moi le plus grand trésor que je pouvais avoir. C'était un lien avec l'extérieur. Et c'est un lien pour montrer que nous sommes encore des humains. Et après, on nous a fait rentrer dans une chambre, complètement déshabillée donc, et on nous a amené dans un bâtiment où il y avait des habits. Alors là, les habits, il faut vous dire que tout ce qui était bon, qui était récupéré par les Allemands, était envoyé par eux pour les civils, pour les Allemands civils, ou vendus. Donc ce qui restait, c'était vraiment des choses absolument non métables, presque non métables. Je vous rappelle qu'il faisait très froid, qu'il y avait de la neige par terre, et que c'était des robes d'été qu'il y avait. Donc il fallait choisir une robe d'été, enfin on nous a donné, on ne pouvait même pas choisir, une robe d'été. J'ai reçu une robe, je crois, bleu marine, à manches courtes, je ne sais pas en quoi c'était, en crêpe, quelque chose comme ça. Et ensuite, il fallait chercher les chaussures. Alors là, c'était une catastrophe, parce que des chaussures qui vous allaient aux pieds, ce n'était pas évident. Moi, j'ai trouvé une chaussure, une paire, mais naturellement, la gauche n'allait pas. Donc, j'ai dû récupérer la gauche d'une autre paire, et il fallait se dépêcher. J'avais donc une paire de chaussures un petit peu à talons et l'autre sans talons. Mais au moins, il me faisait pas mal aux pieds. Ma belle-sœur avait la chance, elle avait des meilleurs pieds que moi, j'étais très contente pour elle, une paire de chaussures normales. bon troué, mais enfin, c'était une paire de chaussures. Ensuite, on nous a mis dans une chambre et on a attendu. Et je vous ai dit que j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, nous n'avons strictement rien mangé. Absolument rien, nous n'avons rien eu. C'était 4 heures du matin quand nous sommes arrivés, et là, il était déjà au moins 10, 11, 11 heures. Et nous avons attendu dans cette chambre jusqu'à ce qu'on nous appelle pour nous emmener carrément dans le camp de Birkenau. Là, quand on a vu ces baraques de loin, on était assommés. Assommés, on s'est dit qu'on est des animaux, on n'est plus des personnes, on n'a plus de nom, on n'a que des numéros, et on va nous mettre dans ces baraquements. C'est effrayant. Alors on nous a amenés dedans. Alors à l'intérieur, c'était encore plus effrayant que dehors. Nous étions juste dans la baraque à côté du four crématoire. Le four crématoire était juste à côté de notre baraque. Nous ne savions rien, encore rien du tout. Dans cette baraque, il y avait des carrés de bois qu'on appelait des koyas. Et c'était à deux étages, en gigogne, des petits étages. Et c'était même le plancher, il n'y avait pas de paillasse. Et nous étions mis trois en tête de bêche. Mon pied frôlait la figure de l'autre, et il fallait faire, le pied de l'autre, il fallait faire très attention de ne pas se cogner, de ne pas se toucher, parce que nous étions à fleur de peau. On avait une mince couverture pour nous couvrir, et nous nous sommes installés, moi avec ma belle-sœur, nous nous sommes mis à l'étage supérieur, et on attendait pour voir, peut-être on nous amènerait à manger, mais on avait le cœur vraiment meurtri et abasourdi. Je ne peux même pas vous expliquer dans l'état où nous étions, avec tout ce que nous avons subi. Rasés, tondus, désinfectés, tatoués, et la faim dans le ventre, et le cœur vide complètement. Nos maris, on n'a rien entendu. Et là-dessus, il y avait des chefs de bloc. Et ces chefs de bloc s'appelaient des capots. Et c'était des juifs. Et les Allemands, leur résultat, ce qu'ils voulaient, c'était de se faire commander et taper par des juifs. Que eux, ils sont innocents dans toute affaire. Ces capots, ce sont des juifs qui venaient de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, enfin, depuis 1934, 35, 36, peut-être 38, je ne sais pas exactement. Mais elles ont souffert dans ce camp ce que nous avons souffert, mais en trois fois plus. Parce que lorsque nous sommes arrivés, il paraît que c'était déjà modernisé. Modernisé, ça veut dire qu'on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de toilette, on ne pouvait pas se laver, on ne pouvait pas sortir. Pour sortir ces petits besoins, il fallait aller à quatre blocs. Par terre, il y avait de la boue. Alors en pleine nuit, ce n'est pas évident. Si vous aviez le malheur de perdre quelque chose entre-temps, parce que c'était pressé, vous aviez tout de suite des capots qui étaient cachés avec des bâtons et qui vous tapaient. Donc, ces capots sont venus nous visiter lorsque nous étions dans ce koya, nous étions assis. Elles sont venues nous visiter et nous ont demandé des nouvelles de dehors. Et nous, innocemment, nous avons dit, on espère que ça va être la libération, qu'ils vont se rapprocher, peut-être les Russes, les Américains. Et elles nous ont regardé d'un drôle d'air et on a demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, elles nous ont dit, alors moi, on va vous raconter ce qui se passe ici. Elle a pris cette jeune fille, donc, qui était tendue et qui avait sa mère avec ses trois petites sœurs. Cette jeune fille lui a demandé, quand est-ce que je vais revoir ma mère qui est venue en camion avec mes trois sœurs? Alors, elle leur a répondu carrément, si tu veux les revoir, tu vas les sentir parce qu'elles sont au four crématoire. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce four crématoire? Et elle a raconté toute l'histoire, comment on les gaze et comment elles passent au four crématoire. Et cette jeune fille, en entendant cela, et s'est évanouie. D'abord, elle a hurlé. Elle s'est évanouie. Il a fallu la gifler pour la remettre. Et je leur dis, mais pourquoi vous racontez ces choses-là? D'abord, c'est pas vrai. Elle me dit, si. Elle me dit, écoute un petit peu, sens l'odeur que tu sens. C'est l'odeur de la viande grillée. C'était juste à côté de notre bloc. C'est comme ça qu'ils sont tous passés, ceux qui sont passés avec le camion. Et vous savez ce qui vous attend ici? Des sélections, et vous allez travailler comme des esclaves. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as intérêt à nous raconter ça? Pour que vous soyez préparés. Parce que nous, pour vous, maintenant, c'est le paradis. Nous, ce que nous avons souffert ici, c'est rien à côté de ce que vous allez souffrir ici. Et c'est comme ça que nous avons appris tous les malheurs qui nous tombaient sur la tête. Et c'était des filles qui étaient, je regrette vraiment que c'était juives, c'était des filles qui étaient hystériques. Elles étaient hystériques, elles étaient là depuis des années. Et pendant ces années, elles avaient le trois quarts, ou peut-être même plus que les trois quarts, sont morts de typhus. Parce que le peu d'hygiène qu'il y avait maintenant, il n'y en avait pas du tout. D'hygiène, moi, j'en ai pas vu là-bas. Mais, par exemple, les koyas, c'était pas des koyas, je ne sais pas, ils avaient de la boue dessus, et ils n'avaient pas de couverture. Et ils n'avaient pas du tout de latrine, même à 3-4 blocs. Parce que la latrine, c'était des trous, à même le sol, c'est ça les latrines. Et il n'y avait pas cette rampe d'eau qu'avaient les résistants, les Allemands non-juifs, qui étaient à 4-5 blocs de nous, qui avaient une rampe d'eau dans la cour, que nous n'avions pas. Eux, ils n'avaient même pas ça. C'est vrai que nous, nous ne pouvions pas nous laver, nous non plus. Mais enfin, il n'y avait pas tout ça. Je ne sais pas, il y avait peut-être le peu que nous avions à manger, ils n'en avaient pas. Et la moitié des gens, le trois quarts des gens ont disparu. Donc, elles étaient hystériques. Et celles qui sont restées sont devenues des sauvages. C'est seulement comme ça que je peux comprendre. Et ça, je pense que je l'ai compris seulement en restant là-bas après plusieurs mois. C'était en avril 1944, et il faisait toujours très froid, et quand ils sont partis, le soir, donc il était déjà très très tard, il était peut-être 1h du matin, on a essayé de s'étendre et de dormir, et ces petites jeunes filles sanglotaient à fondre l'âme, alors on n'a même pas pu dormir, il fallait les consoler. Et je m'imaginais avec ma belle-sœur qu'est-ce qui s'est passé avec nos maris. Bon, on savait que nos maris étaient costauds, c'était des jeunes. Peut-être qu'ils ont échappé, on ne savait pas. Et puis, on s'est endormi quand même par la fatigue, la faim, parce qu'on n'avait rien reçu. Et on a rêvé, enfin moi personnellement, j'ai rêvé de la maison. Et je me suis revue à la maison. Et à 4 heures du matin, c'était l'appel. Hofstein, des coups de bâton tapés sur le koya. Celle qui ne voulait pas se lever, effectivement, était tapée. Mais on se levait en vitesse, on n'avait rien à se mettre, parce qu'on a dormi tel que nous étions, avec notre robe, c'est juste la chaussure qu'on a enlevée. Donc il fallait sortir à l'appel. Il faisait noir, il faisait froid, et l'appel durait selon l'humeur de la SS, de la SS-femme, donc de ces soldats SS, et avec des chiens toujours. Et nous sommes mis en rang dans ce froid, et elle nous a commencé à faire son petit discours. Vous êtes ici dans un camp de travail. Vous avez dû voir sur la porte à l'entrée marqué Arbeit macht frei, c'est-à-dire le travail c'est la liberté. Pour vous, c'est pas tellement la liberté, mais si vous travaillez, on vous fusillera pas. Et si vous ne travaillez pas, on vous fusille ou on vous met au four crématoire. Donc, il faut travailler pour le Grand Reich, pour l'Allemagne, afin qu'il se développe. Et c'est l'Allemagne qui va vous libérer. Et comme ça, pendant une heure, ce discours, pour dire que nous devons travailler, travailler, travailler. Bon, là, on avait droit à une heure et demie d'appel, au bout desquels j'ai vu arriver deux déportés avec une grande barrique qui était censée être du café. On nous a distribué des timbales en métal qu'il fallait accrocher autour de notre taille, et une petite cuillère, c'était notre survie. Il ne fallait pas le perdre, parce que sans ça, on n'avait rien à manger. Le peu qu'on avait, on n'en aurait pas eu. Et il fallait faire se bousculer pour avoir ce semblant de café qui était un jus de chaussette, en fait, tiède, à 5h30 du matin, et il fallait se bousculer pour en avoir. Et si on n'arrivait pas à en avoir, c'était tant pis. Et bon, on a pris ce café, et ensuite on nous a assigné, on nous a dit à quel commando nous allons travailler. Et nous étions désignés avec ma belle-sœur, malheureusement, pour le commando qui faisait les routes. Donc, il fallait sortir. Alors, on ne nous a rien donné encore à manger. On est sorti avec ce café dans le ventre. On nous a mis en rang par 5. Et il fallait chanter et aller au pas. Entouré à gauche par des SS hommes, c'est les seuls hommes qu'on a vus d'ailleurs, SS hommes avec des fusils, et à gauche par des SS femmes avec des chiens. Et nous sommes passés devant le garde, toujours en chantant, au pas, et puis nous sommes allés, comme ça on a marché une demi-heure dans la forêt. Et là, avec des pelles et des pioches, nous devions faire les routes. Et c'est là que j'ai pensé, justement, à Radio Londres, qui racontait que ces femmes, en robe d'été, travaillaient les routes en plein hiver, dans un camp de concentration, et que mon père ne voulait pas croire. J'ai dit, papa, si tu me voyais aujourd'hui, tu ne les couperais pas, tu le croirais. Et jusqu'à midi, midi et demi, nous étions en train de travailler et on avait une demi-heure de pause.